Bonsoir à tous. Nous allons débuter cette rencontre avec Louis Lourme. Louis Lourme, vous êtes philosophe, spécialiste de la philosophie politique contemporaine et spécialiste des questions qui touchent à la citoyenneté mondiale. Vous êtes à ce titre chercheur associé au laboratoire SPH à l'université Bordeaux-Montaigne. On pourra d'ailleurs se questionner au cours de cet entretien, peut-être se poser la question de ce glissement depuis des questions de citoyenneté mondiale, dont vous êtes spécialiste, vers des questions autour de l'anthropologie chrétienne. Ça pourra être une piste. Vous êtes également chef d'établissement de l'ensemble scolaire Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux, un établissement jésuite. Nous sommes réunis ce soir pour évoquer l'ouvrage donc que vous avez dirigé, Éduquer, c'est-à-dire anthropologie chrétienne et éducation. Donc moi, je vous propose, Louis Lourme, de mener cet entretien à la manière d'un échange libre au cours duquel on pourra évoquer successivement la genèse de l'ouvrage, quelques points théoriques, et puis les éléments que vous développez dans votre introduction. Et puis cet entretien sera suivi des questions de notre public. Pour commencer, en guise d'introduction, j'aimerais qu'on se penche sur la genèse de l'ouvrage. Pourquoi un tel ouvrage en 2019 quelles ont été vos motivations là-dessus?
Alors, d'abord, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis ravi d'être là ce soir, ça va de soi. Je suis ravi d'être accueilli par la librairie Mola. Et puis, je vous remercie pour votre présence. La question de la genèse de l'ouvrage, elle est très simple, et en plus, elle est d'autant plus simple que l'ouvrage a mis finalement assez peu de temps à se monter, ce qui est rare pour un collectif. Donc si on reprend un peu le fil de cette conception, l'ouvrage naît du sentiment qu'il y aurait un besoin de fournir un travail conceptuel sur les rapports entre l'éducation et l'anthropologie chrétienne en particulier. Voilà. Le point de départ, c'est cela. Ça a l'air d'être une niche. Enfin, franchement, réfléchir au lien entre l'anthropologie et l'éducation, je ne suis pas sûr que ça empêche beaucoup de monde de dormir. Mais l'idée, c'est quand même que c'est finalement très important parce que ça concerne les fondamentaux de la pratique éducative. Voilà. L'idée que c'est ce sur quoi notre pratique éducative repose. C'est-à-dire, pourquoi on fait ainsi et pas autrement? Et dans l'éducation au sens large, si vous voulez, hein, enseignants, éducateurs, parents, grands-parents, bien sûr, dans tous les rapports éducatifs, sur quelle vision de l'enfant, de la personne que je dois être aussi, ma pratique repose-t-elle? Voilà. La question, c'est évidemment aussi, dans le lien entre ces deux aspects, anthropologie et éducation, l'autre aspect des rapports, c'est bien sûr de se dire comment je pourrais faire. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais cela, mais comment je pourrais faire autrement? Et si on resserre la réflexion sur une anthropologie chrétienne, ça peut donner l'impression, si vous voulez, que l'enjeu, c'est de se dire qu'il y aurait un modèle chrétien dans le monde et qu'il faut fournir des outils à ce bastion-là pour se défendre contre le monde, etc. Ça pourrait assez vite résonner comme ça. Or, à mon avis, c'est une erreur. Bien sûr, l'anthropologie chrétienne a besoin d'outils conceptuels, mais il ne faudrait pas penser trop rapidement qu'elle est univoque. C'est l'autre, à mon avis, c'est l'autre pente de laquelle il faudrait se garder. Voilà, on pourrait penser que, d'un côté, il faut se doter d'outils conceptuels pour pouvoir penser la pratique éducative sur fond d'anthropologie chrétienne. OK, bien sûr. Pourquoi il faut cela? Vis-à-vis du monde, certainement, vis-à-vis du monde qui nous entoure. Je crois aussi que dans la vie de l'Église, c'est-à-dire dans le cadre chrétien, il y a tellement d'angles différents, tellement de manières d'être, de manières de penser différents, que c'est aussi vis-à-vis de l'Église d'aujourd'hui à mon avis, que ce besoin-là se fait sentir. J'essaye de dire les choses peut-être un peu plus clairement pour expliquer ces deux pentes-là. Je crois que c'est important que les rapports entre l'éducation et l'anthropologie chrétienne ne soient pas laissés, la pensée de ces rapports-là, je crois que c'est important qu'ils ne soient pas laissés uniquement à ceux qui pourraient penser qu'il n'y a qu'une manière de faire, voilà, y compris dans la vie de notre Église. Et l'ouvrage, un des objets de cet ouvrage, c'est de montrer la richesse de notre tradition et de montrer la richesse de notre anthropologie. Voilà. Il y a d'autres enjeux, mais je crois que c'est cela prioritairement. Et ce constat de départ, encore une fois, qui n'est pas très vieux, qui a un an et demi, ce constat, c'est un constat que l'on peut faire dans les cercles intellectuels au milieu desquels on évolue. Très concrètement pour cet ouvrage, ce constat, il a été dressé avec Mathieu Pomies, qui est ici, dans le cadre d'une réflexion sur l'ISFEC, c'est-à-dire cet institut qui s'occupe de la formation des maîtres de l'enseignement catholique à Bordeaux. Il y a des ISFEC un peu partout. Je ne sais pas si tout le monde connaît la structure de l'enseignement catholique, mais enfin, rapidement, il y a bien sûr des instituts de formation pour les maîtres. Et en fait, en discutant sur les besoins des enseignants, des éducateurs dans l'enseignement catholique, on pourrait dire, si on voulait dramatiser un peu le truc, cette urgence-là tarde pas beaucoup à se faire sentir. Il faut des apports conceptuels pour accompagner la pratique éducative. Et comme il y a plusieurs façons de concevoir ce qu'est une anthropologie chrétienne, ou plutôt un cadre chrétien pour porter un projet éducatif, et bien c'est important d'avoir des outils intellectuels qui montrent cette richesse-là, plutôt que simplement des manifestes qui diraient « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que ça doit être ».
Alors justement, cette diversité de points de vue, vous avez choisi de la montrer parce que vous avez opté pour un collectif. Comment avez-vous sélectionné les auteurs ?
Alors déjà, le principe du collectif n'a pas trop tardé à apparaître comme le choix le plus pertinent, si vous voulez, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que moi, je ne suis pas spécialiste. C'est ce que vous disiez. Hein. Dans l'ouvrage, on a la chance d'avoir de très grands auteurs, Marguerite Léna, d'avoir François Moog. Voilà. Moi, je suis, c'est pas mon domaine de spécialité. Je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Marguerite Léna. Je ne suis pas spécialiste de Maritain, dont parle tant François Moog, qui est si important. Bien sûr, voilà. Donc, dans la mesure où je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, au sens universitaire, hein, je veux dire où j'aurais consacré toutes mes recherches à ce domaine-là, le plus pertinent, bien sûr, c'est de faire appel à des compétences, à des expertises, d'une part, et puis d'essayer un peu naïvement de proposer des pistes pour que l'ouvrage soit le plus accessible possible. En ce sens-là, l'ouvrage n'est pas un ouvrage universitaire, de recherche universitaire, qui serait accessible seulement à quelques spécialistes. J'ai rien contre les ouvrages universitaires, croyez-moi. Hein. J'essaye d'en vendre. Hein. Mais là, c'est pas le problème, si vous voulez. Le projet est tout autre. Et donc, un collectif, pourquoi ? Parce que ça a plusieurs mérites. Assez vite, quand on en parlait avec Mathieu, l'idée, c'était... On partait de quelque chose comme de l'idée d'un manuel, si vous voulez. Quelque chose qu'on puisse manipuler facilement en fonction des préoccupations, soit des communautés éducatives, soit des préoccupations du moment. Donc, qu'ils fassent des focus sur des points un peu précis et pour la lecture duquel, je n'ai pas besoin d'avoir lu les trois chapitres précédents. Il n'y a pas de grand 1, grand 2, grand 3. Ce n'est pas l'exposé d'une anthropologie, d'une doctrine anthropologique au sens plein. Le parti qui a été pris dès le début, le projet a évolué un peu. On ne peut pas tout à fait dire que ce soit un manuel au sens même d'un manuel scolaire, vous voyez. Mais quand même, l'idée qu'on puisse lire tel ou tel chapitre sans avoir lu les autres, en fonction de ses préoccupations personnelles, en fonction de ses goûts personnels, cela, ça a demeuré. Et puis, l'autre mérite, à mon avis, l'autre intérêt d'avoir une variété d'auteurs, c'est que même si les thèmes sont très variés, l'éducation intégrale, la fraternité, l'importance de la parole, l'expérience, les grands défis anthropologiques, voilà, enfin, si je vais rapidement, en plus de cela, il y a le fait qu'il y a une variété de plumes. Voilà. Et que lire le texte de Pascal Sevèze sur l'expérience, y compris dans la forme, ça n'a rien à voir.
Tout à fait.
il est jésuite, donc je dis rien. Mais si vous voulez, y compris dans la forme, c'est très différent du texte très, comment on pourrait dire, très classique dans sa présentation de François Mogg, ou du texte plus littéraire de Marguerite Léna, vous voyez. Et donc je me dis, même de ce point de vue-là, selon les sensibilités de chacun, on n'est pas tous habitués à lire, on n'a pas tous du goût pour lire des exposés d'anthropologie, eh bien, de ce point de vue-là aussi, il me semble que le lecteur gagne quelque chose. Il y a différents angles, et puis il y a différentes manières d'exposer même les relations entre l'anthropologie chrétienne et l'éducation. Ça contribue du coup à montrer un peu la richesse qui était, ce qui était l'objectif de départ. Je crois qu'il y a un troisième point, c'est que... les auteurs, je crois, si on les réunissait tous autour d'une table, ce serait une belle table. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient tous d'accord entre eux, en plus. Alors ça, c'est quand même original, si vous voulez. Quand vous dirigez un collectif, très souvent, vous sélectionnez en gros une équipe sur un point précis, des gens très compétents, et puis des gens qui font un peu partie du même bord. Ce qui me frappe dans la lecture des textes, indépendamment de ce que j'ai dit, la variété des points de vue, la variété des manières même de s'exprimer, c'est qu'il y a des angles assez différents, hein, qui sont présents dans l'ouvrage. Ça, je crois que c'est aussi un plus. Ça s'explique par une chose très simple, un peu de stratégie de ma part dans le choix des auteurs. Il fallait des auteurs très différents. Et puis aussi, beaucoup plus simplement, par le fait que les auteurs ont été choisis par connaissance, par contact. Et donc, ça donne au final une équipe qui est... pluriel. Voilà. Et ça, c'est une chance, je crois. Voilà.
Bien. Merci pour ce portrait rapide de la Genèse. Si on en vient maintenant au fond, peut-être le plus simple pour débuter, c'est de commencer une explicitation de ce sous-titre « Anthropologie chrétienne et éducation ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'alliance de ces deux concepts ?
Alors, vous m'entendez bien, là, si je parle comme ça ? Oui. Hein. J'allais dire quelque chose comme... C'est une très bonne question. Mais en fait, c'est absurde. On s'est un peu mis d'accord, quand même, hein, sur les questions. Donc, bon... Il reste qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce sous-titre, je crois, sur l'alliance entre les deux termes. C'est une alliance qui va peut-être pas tout à fait de soi. J'explique d'abord pour tout le monde ce que c'est que l'anthropologie. L'anthropologie, ça signifie simplement, ça désigne une vision de l'homme. Voilà. Et donc, l'idée qu'il y ait quelque chose comme une anthropologie chrétienne, même ça, on pourrait en discuter, quelque chose de très univoque et tout, on ne sait pas, hein, c'est probablement à creuser. En tout cas, le fait qu'il y ait une anthropologie chrétienne ou qu'on se réclame de quelque chose comme d'une anthropologie chrétienne, ça signifie que, eh bien, il y a une vision chrétienne de l'homme. Ça n'a pas l'air d'être quand même révolutionnaire, ça. Et associer ça à la notion d'éducation, ben, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que la vision chrétienne de l'homme ne laisse pas indemne la manière d'éduquer, qu'elle n'est pas neutre quand on pense l'éducation. Et je crois qu'il y a au moins deux dimensions anthropologiques dans l'éducation, indépendamment du fait que l'anthropologie soit chrétienne ou non, hein, il y a bien toujours deux dimensions anthropologiques, en amont et en aval, déterminées et déterminants. C'est-à-dire, bien sûr, que en amont, ma pratique éducative dépend de la vision de l'homme au sein de laquelle cette pratique éducative émerge. Pas forcément consciemment. Mais évidemment, ça revient à dire qu'on n'éduque pas de la même façon aujourd'hui qu'hier. Donc c'est bien qu'il y a un bain anthropologique duquel découlent nos pratiques éducatives. En amont, donc. Et puis en aval, il y a une dimension anthropologique. Et c'est peut-être là où c'est le plus immédiatement sensible pour les enseignants, pour les éducateurs. En aval, parce que la manière dont j'éduque a un effet sur l'homme que je contribue à former. Donc, en aval, il y a une dimension anthropologique. Je contribue à former des hommes. C'est d'ailleurs la beauté de la mission. Donc, il y a bien... la pratique éducative, elle est déterminée par une vision de l'homme, par un bain anthropologique. Elle est déterminante pour l'anthropologie aussi. Et je crois que dire ça, c'est très simple. Hein. Mais dire ça, ça montre très vite que l'acte éducatif, il est directement situé sur le plan anthropologique. Il est du coup C'est peut-être une déformation issue de mon domaine de recherche en philo, mais je crois qu'il est directement situé aussi, du coup, sur le plan politique. C'est pas neutre. L'acte éducatif n'est pas neutre sur le plan politique, puisqu'il contribue à former des personnes, des citoyens. Voilà. Voilà. Pour une explication du sous-titre, ça va,
voilà,
c'est quand même pas mal.
Je pense que c'est pas mal, on n'est même pas encore dans l'introduction.
Oui.
Justement, on va y venir parce que vous poursuivez quelques idées, vous émettez quelques idées centrales dans votre introduction. Hein. Par exemple, vous développez le concept d'anthropologie flottante, de posture affirmative, de posture interrogative, de l'importance du discernement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différentes notions?
Alors, l'anthropologie flottante, je ne sais pas si le terme est très parlant, ou anthropologie après coup, l'idée c'est simplement de dire que on peut se faire plaisir en se disant que oui, on a une vision anthropologique, il y a une vision de l'homme, on est porté par une vision de l'homme, et que cette vision de l'homme nous commande de ne pas faire n'importe quoi. Et moi, je peux justifier de mes actions en fonction d'une vision de l'homme, etc. On peut se faire plaisir en faisant comme si nos actes étaient des décisions rationnelles qui découleraient logiquement d'une vision anthropologique antérieure. On peut, ça arrive. Ce que je constate, moi, en tout cas, c'est que ce n'est pas le cas pour ce qui me regarde. Que j'ai des pratiques éducatives, on pourrait dire spontanées, des actes éducatifs que je pose, des décisions, des sanctions, des gratifications, des décisions, des projets, qui ne sont pas au moins systématiquement rattachables, on pourrait dire, à une anthropologie très claire dans ma tête, très consciente, antérieure, de laquelle je n'aurais qu'à tirer les fils pour prendre les bonnes décisions. Voilà. L'anthropologie flottante, ça signifie simplement que mes actes éducatif, j'en sais rien, la sanction d'un enfant, d'un de mes enfants, la décision que je prends de poser telle ou telle sanction, elle a une dimension éducative, elle a une dimension anthropologique. Un acte éducatif, il a une dimension anthropologique. Mais que ça n'est pas, au moins pas systématiquement, accordez-le-moi, rationnel, décidé, conscient. Donc, je me mets à la place d'un tiers qui observerait ma pratique éducative, à l'école, au travail, ou dans la vie de famille. S'il y avait un tiers qui me regardait faire toute la journée, ce serait bizarre, mais imagine, c'est un jeu de l'esprit. Évidemment, lui, à la fin de la journée, il pourrait dire, Louis Lourme, il conçoit tel truc, il pourrait reconstruire après coup, probablement, quelque chose comme un portrait anthropologique. Peut-être qu'il pourrait le faire. Moi, je peux rattacher mes actes, si on discute rationnellement, je peux rattacher mes actes, après coup, à des convictions anthropologiques. Le premier constat que je voulais dresser dans l'intro, ça consistait simplement à dire que ce n'est pas si vrai que ça que dans la pratique, tout découle de cette anthropologie préalable. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça oblige quand même sacrément à être éclairé sur les choix qu'on fait. Voilà, ça nous remet un peu à notre place. Et ça ne signifie surtout pas qu'on ne peut rien déduire d'une anthropologie préalable. Peut-être qu'au contraire, ce qu'il faudrait en déduire, c'est qu'on gagne tout à clarifier les bases anthropologiques sur lesquelles on décide, sur lesquelles on construit nos projets, sur lesquelles on sanctionne, on gratifie, etc. Voilà. Et puis, ça nous pousse à creuser aussi, à clarifier ces ressorts anthropologiques fondamentaux desquels on part. Ça nous pousse à les clarifier aussi pour ne pas laisser le champ complètement libre, je vais le dire avec des périphrases, pour ne pas laisser le champ complètement libre à ceux qui arrivent avec une anthropologie très consciente, eux, très claire, avec un objectif anthropologique très affirmé. Voilà. C'est une façon de dire que l'anthropologie, comme l'ontologie, si vous m'autorisez le terme, c'est-à-dire la vision de l'être, hein, l'anthropologie, même si ça a l'air d'être un terme de sciences humaines, de chercheurs, etc., c'est un terrain de lutte, quoi. C'est un terrain de lutte. C'est un terrain de lutte entre des camps, peut-être. C'est un terrain de lutte en nous aussi. Et puis, à l'intérieur de l'Église, c'est aussi un terrain de lutte. Il y a des postures qui se dessinent. Donc, une idée de l'intro, c'est de dire nos pratiques éducatives ont une dimension anthropologique. Il ne faut pas surinvestir l'anthropologie préalable. Il faut plutôt constater que, bien souvent, c'est une anthropologie flottante à laquelle on se réfère, même pas tout à fait consciente. Pourquoi il faut le constater ? Parce qu'il faut bien le constater pour pouvoir clarifier cela, pour pouvoir faire un travail de clarification. Voilà. Et puis, en effet, il y a d'autres pistes qui sont déployées dans l'intro. Je répète, hein, n'étant pas spécialiste, je n'ai pas fait une intro où je présente les 7 contributions. Hein. Je fais une intro dans laquelle, moi, je présente les rapports qui me semblent pertinents, problématiques et pertinents, entre l'anthropologie chrétienne et l'éducation. Une autre piste, du coup, qui est déduite de ce constat d'une anthropologie flottante, pourrions-nous dire, c'est que, alors ça généralement, ça va moins de soi, c'est prendre le temps de dire aussi que finalement, vous voyez toutes les précautions que je prends, donc c'est pour faire monter un peu le suspense, mais il n'y a pas beaucoup de suspense, ne vous inquiétez pas, c'est juste prendre le temps de constater que finalement, malgré ce que nous dit l'actualité, hein, je ne suis pas naïf, finalement, on a un cadre anthropologique relativement commun dans les sociétés libérales contemporaines. Voilà. Les grands fondamentaux anthropologiques sont communs. Ça a pris du temps, en plus. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Ça a pris du temps, ça a coûté cher conceptuellement, hein, de construire un cadre anthropologique commun. Nous, au milieu des débats actuels, des débats très concrets actuels, des débats législatifs actuels, bien sûr, il nous semble qu'il y a des fractures anthropologiques fondamentales, irréconciliables, etc. Mais c'est risqué de trop tenir cette vision-là de l'actualité, je crois. En tout cas, pour ce qui me concerne, je tenais à mettre un tout petit peu en lumière que pour sa plus grande partie, notre cadre anthropologique est commun. À tel point que des choses qui ont coûté très cher dans l'histoire, comme dire des choses comme, je ne sais pas, hein, tous les hommes ont une égale dignité, l'égale dignité des personnes, ça ne va pas du tout de soi. Hein. Ça a pris longtemps à proposer ça comme idée. Bien aujourd'hui, si vous dites ça, c'est une platitude, c'est une banalité, c'est une évidence. Donc je voulais aussi prendre le temps de mettre un peu au jour le fait qu'on a des fondamentaux anthropologiques qui nous permettent de discuter, quoi. Qui nous permettent de discuter. Et puis, je prends cette intro comme l'occasion aussi de faire preuve, alors je ne sais pas comment on pourrait le formuler, mais d'une forme probablement d'humilité sur le plan intellectuel, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, déduire de ces deux constats-là l'idée qu'il y a plusieurs façons de considérer les relations entre l'éducation et l'anthropologie chrétienne. Il y a plusieurs façons, qui sont complémentaires, hein, qui sont complémentaires, bien sûr. Et dans l'ouvrage, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont affirmées, qui sont dites, qui sont posées, qui sont déployées, argumentées, etc. Au moins, dans l'intro, je voulais prendre le temps de dire qu'il y a des postures différentes. Et il y a probablement des postures affirmatives, disant, en gros, il y a un modèle chrétien, il y a une vision chrétienne de l'homme, et puis voilà ce que ça nous permet d'affirmer. Hein, okay. Il y a cette posture affirmative qui existe, qui est sûrement précieuse, et sûrement qu'il faut creuser, voilà. Je tiens quand même à l'idée que dans la tradition chrétienne, on a aussi une posture qui est une posture interrogative. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire qu'il y a une vision chrétienne de l'homme qui nous invite à penser que, ok, je crois qu'on est aussi invité à interroger ce que le monde contemporain nous met sous les yeux. L'interroger franchement, en se disant franchement, voilà. Comme chrétien, qu'ai-je à dire des questions anthropologiques contemporaines ? Les deux sont complémentaires, vous voyez bien. Mais la deuxième posture est souvent évacuée dans les débats, comme si vraiment être chrétien, c'était tenir un bastion, le défendre contre le reste du monde qui en veut aux chrétiens. Et cette logique du bastion, elle a sûrement des mérites. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais au moins, elle gagne encore plus de mérites si elle est enrichie d'une posture plus interrogative. Voilà. On gagne en gros à partir de l'idée que notre mission, c'est d'interroger l'anthropologie contemporaine, si tant est qu'il y ait quelque chose comme tel, d'ailleurs. Interroger ce qui a l'air d'aller de soi aussi. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde de l'éducation. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est la mission de l'éducateur si ce n'est pas apprendre à l'enfant à interroger ce qui a l'air d'aller de soi. C'est-à-dire, on peut lui apprendre un modèle, on peut lui donner des repères, ok, mais à réaffirmer sans arrêt que notre mission serait vraiment de lui faire digérer tout un tas de repères fondamentaux, de modèles, etc. Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose de l'éveil de l'enfant au monde, à ce monde-ci, quoi, hein, pas au monde d'hier, hein, à ce monde-ci? Est-ce que notre mission d'éducateur, et d'éducateur chrétien en particulier, c'est pas de l'éveiller à cela, au jugement intérieur éclairé? Si vous me permettez un clin d'œil à ma tradition pédagogique, on dirait au discernement, si vous voulez. Hein. Quand même, c'est l'éducation au discernement, ça suppose bien d'avoir des outils, hein, croyez-moi. Hein. D'avoir des repères, c'est certain. Hein. Mais enfin, de considérer que l'horizon, c'est pas d'avoir un bastion à tenir. L'horizon, c'est d'être ouvert sur le monde et d'avoir d'être capable de l'interroger. Voilà.
Merci pour ces points essentiels développés dans votre introduction.
Et j'insiste.
Oui.
J'aime bien couper la parole. Non. J'insiste juste sur un truc. C'est que il y a une forme de confort, en plus, pour le chrétien, à considérer qu'il a fini d'être chrétien quand il a tenu son modèle. Voilà. Et c'est un confort duquel peut-être il faut se méfier. Bon, je n'ai pas de leçon à donner, mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que c'est très confortable de se dire, voilà mes repères, tu les partages, voilà ce que nous dit l'Église. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Si t'es pas d'accord, t'es en dehors du truc, etc. Il y a quand même un confort intellectuel. Et pour l'enfant, il faut se méfier d'installer trop l'enfant dans ce type de rapport au monde. Est-ce que je desserre pas sa croissance? Il s'agit pas de faire, alors attention, hein, il s'agit pas de faire comme si tout se valait, comme ça, c'est pas du tout le problème. Je dis juste que tenir qu'une des deux postures me semble au moins être problématique. Voilà. Ça valait le coup de couper la parole. Attends, je recoupe la parole. Non, c'est horrible. Avec mon œil, j'ai checké rapidement parce que j'ai pointé ce qui me semblait un peu clé. Et il y a un autre aspect. C'est qu'il se trouve que là, on parle d'anthropologie. Et il ne faut pas, je crois, faire comme si l'anthropologie était un terrain comme un autre de discussion entre l'Église et le monde ou à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas n'importe quel champ de débat. L'anthropologie, il se trouve que ça touche au corps, au désir des gens, à leur attachement, à leur choix, etc. Et donc, l'autre mérite d'adopter une posture un peu interrogative, c'est que ça permet d'entrer en discussion avec, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin de l'intro, avec une forme de délicatesse dans la discussion. C'est-à-dire, au moins, en partant d'une écoute de la posture avec laquelle j'entends entrer en débat. Et je crois que l'anthropologie, c'est vraiment le lieu où on a besoin de faire preuve de délicatesse, parce que ça touche à des choses très fondamentales des personnes. Voilà. Donc c'est peut-être le dernier mérite. Voilà. Pardon, et là je me tais.
Non, mais vous l'avez évoqué du coup dans cette introduction avec les points essentiels. On peut maintenant en venir à la réception de l'ouvrage par les lecteurs et par rapport au monde des éducateurs. En fait, qu'espérez-vous de la publication de l'ouvrage et comment imaginez-vous que les lecteurs, les éducateurs vont s'emparer de l'ouvrage ?
Alors, d'abord, je souhaite qu'ils l'achètent, évidemment, en grand nombre. Enfin, moi, je crois que la forme de l'ouvrage se prête à une bonne digestion par le plus grand nombre. Voilà. Les champs touchés sont tellement variés, si vous voulez, dans des styles tellement différents, avec y compris des traditions représentées dans l'ouvrage tellement différentes, que je me dis, pour peu qu'on ait un souci lié à l'éducation, pour peu qu'on ait un souci lié à l'éducation dans un cadre chrétien, on trouvera quand même quelques pistes qui doivent faire naître la réflexion sur le sens de nos pratiques, etc. Je pense à des articles aussi, des contributions aussi différentes que celles de, je sais pas, du frère André-Pierre Gauthier, de Christiane Conturi. Ce sont à chaque fois, donc sur la fraternité par exemple, ce sont à chaque fois des thèmes qui peuvent intéresser spontanément ou ne pas intéresser, enfin dans la manière même dont le chapitre est énoncé à la fin de la table des matières. Enfin, c'est tellement différent C'est tellement complémentaire, par exemple, si on lisait ces deux chapitres à la suite, que j'ai plutôt confiance dans le fait qu'il peut parler à beaucoup. Voilà, il peut parler à beaucoup. Il peut parler à beaucoup de ceux qui se laisseront pas trop rebuter par le sous-titre, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, il faut un fond quand même. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui serait hostile radicalement à tout ce qui touche de près ou de loin à la vie de l'Église, bon, ben lui, peut-être qu'il aura du mal à rentrer dedans. Mais pour le reste, si vous voulez, je me dis, je suis parent, je suis éducateur au sens large, je suis enseignant, je suis en formation. Je me dis, il y a quand même de quoi être intéressé. Et puis je crois, enfin je l'espère en tout cas, je le disais au début, c'est un travail intellectuel, un travail conceptuel, c'est pas un récit, c'est pas du témoignage. Je crois qu'il y a de quoi travailler. Voilà, il y a de quoi se former en lisant telle ou telle contribution. Voilà.
Justement, on va parler de la formation. Aujourd'hui, il y a de nombreux personnels d'éducation, des enseignants, non enseignants, mais également des parents d'élèves qui fréquentent les établissements catholiques, qui n'ont pas forcément une connaissance, ou qui ont justement une connaissance assez éloignée de la foi. N'est-il pas besoin de connaître précisément la parole du Christ pour mettre en œuvre son projet, pour accomplir sa mission d'éducateur ?
C'est très subtil, cette question, puisque Christelle a enlevé le dernier mot. Je ne me suis pas fait avoir. En gros, est-ce qu'il faudrait être chrétien, connaître sur le bout des doigts la parole pour pouvoir agir en éducateur dans un cadre chrétien? Bon, c'est une question évidemment très classique. Ça revient à se dire, en gros, enseignement catholique. Qu'y a-t-il de catholique dans l'enseignement catholique ? C'est une question que dans l'enseignement catholique, on se pose sans arrêt, qu'on a été invité à se poser d'ailleurs pour des raisons un peu historiques, si vous voulez, et puis pour des raisons pratiques. Hein, parce que si l'enseignement catholique avait continué à être un enseignement fait par des catholiques pour des catholiques, eh bien écoutez, on serait moins nombreux. Hein, donc, si vous voulez, il y a une ouverture nécessaire de l'enseignement catholique qui a très tôt fait poser cette question-là, qui est travaillée dans les instituts de formation, dans les communautés éducatives aussi, ça va de soi, et puis dans les différents cursus que nous, on suit au moment de se préparer à cette mission-là. Je crois que la réponse, elle est du coup un peu simple. Hein, la catholicité, on pourrait dire, de l'enseignement catholique, ou le cadre chrétien, ou la chrétienté du cadre, hein, c'est ça qui garantit la valeur de l'accompagnement. C'est la manière dont je conçois le cadre. C'est le projet. C'est-à-dire, qu'y a-t-il de catholique dans le projet ? Il y a plein d'éducateurs dans nos établissements qui sont, pas hostiles, ça va de soi, mais parfaitement ignorants de la tradition catholique. Parfaitement ignorants, j'exagère un peu, mais si vous voulez, bien sûr, qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas traversés par le sentiment que, eh bien, il y a un amour plus grand que moi qui me tient. Et ça, la beauté de l'enseignement catholique, je crois, c'est que c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Il y a une génération où ça a posé problème, bon, dont acte. Je crois que ce qui fait la catholicité de notre enseignement catholique, c'est d'abord et avant tout, le projet, l'horizon qu'on se donne pour l'enfant. Voilà, la manière qu'on a d'ouvrir l'enfant à l'espérance, quoi. Il se trouve que nos projets se fondent dans les établissements, se fondent sur l'Évangile et la conviction que l'enfant est appelé à plus grand que lui-même, on pourrait dire. Je ne sais pas quelle formule on pourrait prendre, voyez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et que dans ce projet-là, il y a beaucoup d'éducateurs qui s'y retrouvent, sans être porté, sans connaître, comme vous le disiez, la parole du Christ. Et je peux même dire un peu plus. C'est la beauté de nos maisons, je crois. Hein. C'est que bien souvent, les projets, ce qu'il y a de plus chrétien dans nos projets, de plus catholique, pourrions-nous dire, l'ouverture, hein, le service, bon, l'engagement, c'est pas les cours de maths, hein, vous savez, qui font la qualité de nos maisons. Les cours de maths sont très bons, hein, y a pas de problème. Mais évidemment, la valeur ajoutée, le caractère propre, c'est ce qui est à côté du cours de maths. Du cours d'histoire ou du cours de... Bien sûr. Eh bien, c'est très beau de voir que dans nos maisons, la pointe catholique, l'horizon de chrétien de nos projets est bien souvent porté par des équipes de profs qui ne se diraient pas eux grands chrétiens, grands pratiquants, qui ne connaissent pas la parole, etc. Séduit par l'orientation qu'on donne, par le discours qu'on peut, par le regard que nous, l'Évangile, nous pousse à porter sur l'enfant, séduit par cela, ils suivent le projet et contribuent, pas malgré eux, hein, parce que c'est un choix, hein, mais contribuent consciemment à accompagner l'enfant dans un cadre chrétien. C'est très beau de voir ça, hein, si je ne veux pas en faire des tonnes. Mais c'est quand même toujours un peu frappant d'être témoin de ce genre de choses-là. Vous savez, c'est pour ça que le dernier... Je tiquais sur le dernier mot, puisque au début... Je vais tricher un peu. Au début, la question, c'était... Ah ben zut, je ne l'ai plus.
Si.
Si, hop, clac, clac, clac. Ouais, en gros, la question, c'était est-ce qu'il ne faut pas connaître la parole pour être un éducateur chrétien, quoi ? Ben évidemment, pour être un éducateur... Pardon, je ne le dis pas. Évidemment, pour être un éducateur chrétien, il faut être chrétien. Ça, OK. Mais ce n'est pas de ça dont il est question, là. Il s'agit d'éduquer dans un cadre chrétien, avec des fondements anthropologiques chrétiens. Voilà. Et cela, on le démontre tous les jours dans notre maison, dans nos maisons, dans plein de maisons, dans nos maisons. Alors, eh bien, cela peut se faire sans être soi-même un chrétien au sens d'un chrétien pratiquant, etc. Et puis j'insiste sur une chose, c'est dans le discours qu'on tient aux familles. La catholicité, si on veut reprendre cela, de nos projets, ce qu'on doit aux familles, c'est d'en exposer la clarté, voilà, d'exposer avec clarté cet aspect-là de nos projets. Et c'est là aussi très frappant de voir des familles, absolument pas pour certaines issues de tradition chrétienne, adhérer malgré tout à un projet et au regard qu'on porte sur l'enfant. Voilà. C'est très frappant de voir cela. On a les motivations des familles, on a des entretiens, bien sûr, pour les rencontrer, pour savoir un peu pourquoi ils viennent là. Oh, vous allez me dire, il y a le discours qu'on vous tient, et puis on sait ce qu'il faut vous dire. Évidemment, je ne suis pas dupe, hein. Ça va de soi. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas que les familles viennent nous dire qu'elles cherchent un cadre chrétien. Je dis que ce qui leur parle, ce pourquoi elles viennent, c'est la vision qu'on a de l'enfant et de son rapport au monde auquel on doit l'ouvrir. Voilà. Le fait que certains puissent dire « oui, oui, moi, je suis tradition chrétienne » et tout, c'est un autre problème. On voit bien que ce qui parle, ce qui a de l'écho dans le cœur des parents, c'est qu'ils souhaitent pour l'enfant, le cadre qu'ils souhaitent pour l'enfant, il se trouve que c'est un cadre qui repose sur ces fondamentaux-là.
Bien, dans l'ouvrage, vos contributeurs évoquent les défis que doivent relever aujourd'hui les éducateurs. Quels défis doit relever l'éducation dans un cadre chrétien, Louis Lourme ?
Alors, zut, il y avait écrit « ne pas toucher le micro », je l'ai touché. quels sont les défis d'un éducateur dans un cadre...
Quels sont les défis et puis quels atouts l'éducation chrétienne possède-t-elle pour y répondre ?
Oui.
Les défis, les atouts.
Les défis, probablement que dans le détail des défis qui se posent, ça va dépendre des charismes. Ça va dépendre des traditions dans lesquelles on s'inscrit. Je le dis, donc, en tant que chef d'établissement de Tivoli, je fais un clin d'œil appuyé à des représentants éminents de Grand Lebrun. Évidemment, selon les tutelles, si vous voulez, selon les établissements, les priorités varient. Ça va de soi. Y a quand même des constantes. Et on pourrait dire que... les constantes sont probablement les défis qu'on se fixe collégialement quand on travaille au sein du secrétariat général de l'enseignement catholique, etc., quand on travaille entre chefs d'établissement. Je crois qu'il y a aussi des constantes qui traversent cela, qui traversent les différents axes qu'on déploie à telle ou telle période de l'histoire de l'enseignement catholique. Si on voulait résumer les défis principaux pour l'enfant, eh bien... Je pense qu'on pourrait le faire avec des formules un peu. Moi, j'en ai plusieurs. Mais il y en a une, je crois, qui est pratique, c'est de se dire que le défi principal de l'éducateur chrétien, c'est probablement de former des êtres qui sont conscients, compétents, compatissants et engagés. Voilà, c'est très simple. Conscients, compétents, compatissants et engagés. Il se trouve que c'est un des supérieurs généraux des jésuites qui a dit ça il y a quelques années. C'est un hasard. Mais je pense que ça résume bien quand même ce qu'on peut souhaiter pour les jeunes. C'est-à-dire lui permettre d'être au service du monde, et de ce monde-ci, du monde d'aujourd'hui. Voilà. Ça suppose plein de choses. Hein. Ça suppose d'avoir été capable en amont de lui montrer que le monde lui fait confiance. Ça suppose aussi de lui avoir donné envie de s'engager dans ce monde, et donc de lui avoir montré que le monde était beau, qu'il se jouait beaucoup du projet de Dieu pour lui dans ce monde. Mais indépendamment même de ce que ça touchera chez lui comme fibre spirituelle, je crois que voilà, quatre adjectifs: conscient, compétent, compatissant, engagé, ça fait quand même de beaux défis. Et puis les atouts, ben, à mon avis, il y a deux niveaux d'atouts pour nos traditions. Le premier atout, c'est un atout très concret de nos établissements scolaires. Là, je parle vraiment stricto sensu pour l'enseignement catholique, j'essaierai d'élargir juste après. À mon avis, l'atout principal, c'est le projet. C'est le fait que je puisse considérer que pour telle communauté, à tel moment, le défi principal, c'est celui-ci. Voilà. Et une autre maison, à 200 mètres de chez nous, ou à 400, séparée par un parc, qu'on pourra considérer que c'est à ce moment-là un autre projet qu'il faut mener. Et quand vous vous baladez sur les sites internet des établissements, je trouve que c'est formidable pour les familles de mesurer la richesse dont ça témoigne. Ça, c'est un grand atout parce qu'on on peut être différent. Voilà. Et puis plus largement, indépendamment de l'enseignement catholique, je crois que l'atout principal, bon, pour moi, c'est l'Évangile. C'est-à-dire que la richesse de la vision de l'homme qu'on a dans la parole a pas fini d'être, on n'a pas fini d'en prendre la mesure. Voilà. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'avoir sans arrêt une parole qui est au goût du jour, qui peut être remise au goût du jour, qui permet de poser les problèmes de manière plus pertinente. Alors, c'est un peu grandiloquent, ok, de terminer en disant oui, l'atout de l'éducateur chrétien, c'est là. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est bien ça qui fait le fond de notre anthropologie, quoi. Voilà.
Bon, on termine sur l'Évangile, c'est parfait. C'est... Voilà, merci pour cette présentation de l'ouvrage, cet éclairage. Merci à vous, Louis Lourme, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et merci à vous d'être venu jusqu'ici.